Qu'est-ce que La Fontaine et le roi Salomon ont en commun? Tous deux ont raconté des histoires et tiré des leçons de morale. Le premier a écrit « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ». Et le second « Celui qui creuse une fosse, y tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule ». Bien qu'il soit l'héritier de la bénédiction de l'Éternel à Abraham, Jacob avait une façon bien à lui de progresser dans la vie, la roublardise. Seulement voilà, il vient, sans le savoir, de faire connaissance du maître en la matière, son oncle Laban. Je continue à lire dans le chapitre 29 de la Genèse. Puis Laban dit à Jacob, « Travailleras-tu pour rien chez moi, parce que tu es mon neveu? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, « Je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Jacob vient de passer un mois à aider son oncle avec les soins des troupeaux, sans rien demander sinon d'être nourri, logé et blanchi. Entre-temps, il est tombé follement amoureux de sa cousine Rachel, qu'il veut à n'importe quel prix. Littéralement, il ne sait pas qu'il vient de passer un nœud coulant autour de sa nuque. Il ne se doute pas encore que son oncle va lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Léa, les filles, n'a pas la chance de sa sœur. Et l'expression « avoir le regard tendre » signifie être physiquement chétive. Bien bâti, Jacob est attiré par Rachel qui ferait la couverture glacée des magazines. Miss Univers. À cette époque, les filles étaient considérées comme la propriété de leur père et le fiancé versait habituellement une dot à son futur beau-père. S'il ne pouvait la payer, il s'acquittait de sa dette par un service en nature. Je conçois que cette manière de procéder est assez choquante pour nous, occidentaux, mais c'était aussi une façon de protéger les filles contre le premier venu. Si Monsieur Muscle, par ses biceps, ou Don Juan, par ses flatteries mielleuses, arrive à fasciner votre fille, le papa sera sans doute beaucoup moins facile à séduire, ce qui met une barrière face à un individu pas bien sérieux ou trop entreprenant. Rachel a tellement fait tourner la tête de Jacob qu'il offre 7 années de travail non rémunérées pour elle, ce qui est excessivement cher payé. À titre indicatif, quelques siècles plus tard, la dot moyenne s'élevait à environ 50 jours de travail. Laban n'en croit pas ses oreilles et se dit que sa bonne étoile lui a souri et la fortune est venue frapper à sa porte. Il va tirer grand profit du fait que Jacob ne sait plus où il en est, tellement Rachel l'a envoûté par sa beauté. Je continue. Et Laban répondit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ses années furent à ses yeux, comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un grand festin auquel il invita tous les habitants de la localité. Cette phrase « Et ses années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait » est des plus charmantes. Tout comme Isaac, son père, Emma, Rebecca, sa mère, Jacob était tellement épris de Rachel que le travail qu'il faisait en vue de l'obtenir était une pure joie. Jusqu'à présent, cette histoire est un vrai roman d'amour, et Rachel fut réellement pour Jacob la femme de sa vie. Finalement, vient l'heure des épousailles avec un festin de noces qui durait habituellement 7 jours. Pour l'instant, tout va bien. Mais Dieu n'a pas oublié les entreloupettes de Jacob, et le moment est venu de passer au second acte. Car son caractère tordu demande un redressement. 7 ans de service étaient un lourd tribut à payer. Mais seulement un acompte. Jacob ne sait pas encore de quoi son oncle Laban est capable, mais il ne va pas tarder de l'apprendre en recevant la rétribution des tours de cochon qu'il a joués à son frère et à son père. Je continue. La nuit venue, Laban prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Il donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé ?» Le roman d'amour tourne au sordide. Il fut facile à Laban de donner le change à Jacob parce que la fiancée était amenée voilée dans la chambre nuptiale qui n'était pas éclairée. L'oncle a profité de ce que Jacob était follement amoureux de Rachel pour lui jouer un tour pendable. Il pensait qu'il pourrait facilement tirer encore 7 années de travail gratuite de lui. Jacob n'a jamais fait que moissonner ce qu'il avait semé. La supercherie dont il a été victime correspond à la lettre à celle dont il avait usé pour tromper Isaac. Dédaigné par son père, Jacob s'était déguisé afin de se substituer à son frère Ésaü, profitant ainsi du fait qu'Isaac était aveugle. Ce micmac le força d'ailleurs à prendre la fuite, car son frère n'avait pas apprécié la plaisanterie et voulait lui faire la peau. Pareillement, la fille aînée, dédaignée par Jacob, a été substituée à la cadette qu'il aimait. Jacob avait prétendu à son père être l'aîné, alors qu'il était le cadet. Il a cru recevoir la cadette pour femme et c'est l'aîné qu'il a dans son lit. Le trompeur a été trompé. Il a beau être l'héritier des promesses de l'Éternel à Abraham, Jacob ne pouvait échapper à la correction divine. Je continue. Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aîné, mais termine la semaine de noces avec cette fille et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Comme certains vendeurs peu scrupuleux, Laban dit à Jacob qu'il avait oublié de lui préciser quelques points de détail du contrat écrit en petits caractères. Cet oncle, un tantinet esclavagiste, dit pourtant la vérité en ce qui concerne la coutume de marier l'aîné des filles en premier. Aujourd'hui encore, on fait ainsi dans certaines tribus nomades du Proche-Orient. Et c'est une bonne idée. En effet, dans ces cultures fortement macho, la femme qui ne trouve pas d'époux sont réduites à la mendicité ou à la prostitution, car elles sont virtuellement exclues de la société. Il est donc compréhensible qu'un père qui aime ses enfants veuille s'assurer que ses filles soient casées. Laban savait que Rachel trouverait toujours à se marier, mais il se faisait du souci pour sa fille aînée qui n'attirait pas les regards et peut-être même les repoussait. D'où le stratagème. Ce n'était certes pas très honnête de sa part, mais il s'est montré un bon père soucieux du bien-être de ses enfants. Dans nos sociétés occidentales, bon nombre de femmes, moins privilégiées d'une manière ou d'une autre, ne trouvent pas à se caser, ce qui n'est pas juste surtout, que la beauté est bien éphémère. Mais à part les parents qui s'en soucient, l'état de célibat est beaucoup moins important en Occident. Mais quand même, moi je pense que beaucoup de coutumes ont de bonnes raisons d'être, même si on en oublie quelquefois le pourquoi qui se perd dans l'origine des temps. Donc, l'habitude de marier la fille aînée en premier est une bonne chose, surtout dans le contexte social oriental, et puis cela lui évite d'être jalouse de ses sœurs cadettes mariées avant elle. Léa, sachant pertinemment que ses chances de mariage étaient très faibles, a entièrement marché dans la combine de son père. Je continue. Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore cette année chez Laban. L'histoire d'amour tourne au sordide. À la fin de la première semaine, Jacob reçoit également Rachel pour femme. Il a maintenant deux sources d'ennui sur les bras parce qu'elles vont se chamailler continuellement. Plus tard, la loi de Moïse interdisait d'épouser simultanément deux sœurs à cause des jalousies que cela suscite. Laban se frotte les mains. Il a fait un superbe carton, d'eux-mêmes, sur le dos de son neveu qui a eu la bonne idée de se réfugier chez lui. D'une part, il a casé ses deux filles avec quelqu'un de bonne famille. Terme relatif à d'autre part, comme tout bon esclavagiste, il récupère 14 années de travail qui ne lui coûtent aucun salaire. C'est un imposteur de première catégorie. Mais il faut quand même lui tirer son chapeau pour sa finesse. On peut se demander où est l'Éternel dans cette histoire un peu abracadabrante. Il n'a été consulté ni par Laban, qui ne vit que pour l'appât du gain, ni par Jacob, qui est un arriviste qui a été pris à son propre piège. Cependant, Dieu est bien là, qui veille à la poursuite de son programme. Je finis ce chapitre. L'Éternel vit que Léa était mal aimée, et lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben, ce qui veut dire « voyez un fils », car elle dit « l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera ». Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit « l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et il m'a encore accordé celui-ci ». Elle l'appela Siméon, ce qui veut dire « il entend ». Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, elle dit « cette fois-ci mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils ». C'est pourquoi on l'appellera Lévi, ce qui veut dire « il s'attache ». De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria cette fois « je louerai l'Éternel, c'est pourquoi ». Elle le nomma Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Et Jacob aime les femmes bien faites. Alors Dieu, voyant que Léa n'attissait pas l'intérêt de son mari, a compassion d'elle en l'en rendant féconde, ce qui, dans le coutume oriental, était plus important que la beauté. De plus, elle donne naissance à des fils, ce qui augmente d'autant son prestige. Ruben, l'aîné, perdra le privilège de premier-né à cause d'une faute grave qu'il commettra. Lévi sera le chef de la tribu sacerdotale. Il est l'ancêtre de Moïse et de son frère Aaron, le premier grand prêtre dont la lignée donnera les prêtres qui rendront un culte à l'Éternel. Le nom des trois premiers garçons de Léa reflète la fierté toute orientale de mère. Mais avec le quatrième, son attitude change. Jusqu'à présent, elle invoquait uniquement l'Éternel en vue d'obtenir l'amour de son mari. Mais maintenant, elle a appris à trouver satisfaction en Dieu, puisqu'elle dit « je louerai l'Éternel », ce qui reflète dans le nom Judas qu'elle donne à son quatrième garçon, ce qui veut dire « il loue ». Judas deviendra la plus puissante des 12 tribus d'Israël, d'où seront issus le grand roi David, le puissant Salomon et Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Nous arrivons maintenant au chapitre 30 de la Genèse, dont le thème est la famille de Jacob. Dieu poursuit son programme envers et contre tout, et va atteindre ses objectifs sans tenir compte des fautes des uns et des autres. Je commence à lire. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur, et elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai !» Jacob se fâcha contre elle et dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants !» Alors, suggéra-t-elle, « Voici ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant. Elle accouchera sur mes genoux et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. » Comme je ne cesse de le répéter, en ce temps-là, être stérile était une disgrâce et un discrédit. Les temps ont bien changé, puisqu'en Orient, certains couples choisissent délibérément de ne pas avoir d'enfants, parce que c'est trop cher. Ça gâche les vacances, il faut trop s'en occuper et les faire garder. Bref, ça complique la vie. Les valeurs d'un peuple à un autre et d'une époque à une autre peuvent changer du tout au tout. En attendant, Rachel est mal dans sa peau et s'en prend à son mari comme si c'était sa faute. Ensuite, elle opte pour une assimilation naturelle, dirions-nous, en passant par le ventre porteur de sa servante. Ça se faisait comme ça. C'est Rachel qui prend cette initiative, car sans le consentement de sa femme, le mari n'avait aucun droit sur les servantes de son épouse. Sarah avait joué le même air de musique à Abraham qui avait couché avec la servante Agar qui enfanta Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Ensuite, il s'en était mordu les doigts à cause de tous les ennuis que cette affaire avait entraînés. Les deux sœurs se crêpaient déjà le sinon et maintenant Jacob va y ajouter les servantes. « Bonjour les dégâts !» La suite du chapitre parle de la naissance de deux fils à Jacob et Rachel par l'entremise de Bila, la servante de Rachel. Elle appela le premier Dan, parce que, dit-elle, Dieu a défendu mon droit. Elle appela le second Nephtali, ce qui veut dire « il lutte » parce que, dit-elle, j'ai livré un combat féroce contre ma sœur et j'ai vaincu. Cette parole de Rachel donne bien le ton de l'ambiance à la maison entre ces deux sœurs qui se déchirent pour obtenir le pouvoir au foyer et l'attention de leur mari. Contrairement à Rachel, les noms qu'a donné Léa à ses fils n'expriment pas d'animosité envers sa sœur. Je crois que Jacob devait rester dans les champs le plus longtemps possible, vu qu'il n'y avait pas de bistrot où s'arrêter en rentrant. La suite défie l'imagination. Ces femmes sont de vraies teignes, et ce récit mériterait qu'on fasse un film. Léa, qui a déjà eu 4 gosses, est jalouse et met sa servante Zilpa dans le lit de son mari, et ainsi deux nouveaux fils naissent par son entremise. Cette histoire me rappelle Fernand Reynaud, un vieux comique de mon enfance, qui dans un fameux sketch disait « Les gens sont méchants » et il avait raison. En fait, ils l'ont toujours été. Donc, la lutte fratricide continue de plus belle. La scène suivante a pour centre des mandragores, des fruits aux effets narcotiques, aussi appelés pomme d'amour, auquel on attribue le pouvoir de rendre les femmes fécondes. Bref, Léa en donne à Rachel, ou plutôt, les échange contre le droit de coucher avec son mari cette nuit-là. Si ça continue, le film va bientôt être interdit aux moins de 16 ans. De ce micmac naît un nouveau fils à Léa, après quoi elle donnera encore naissance à un sixième garçon. Et enfin, à une fille. Je continue plus loin dans le chapitre 30. Alors Dieu eut égard à Rachel, il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant « Dieu a enlevé ma honte ». Elle le nomma Joseph, ce qui veut dire « il ajoute » en priant. « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils ». La stérilité étant souvent considérée comme un jugement de Dieu, il semble que Rachel ait abandonné l'usage des pommes d'amour pour invoquer l'Éternel concernant sa stérilité. Car il est dit, Dieu exauça Rachel, et elle devint enceinte. Son fils Joseph est un personnage très important dans la suite de la Genèse, car il fut un remarquable homme de Dieu. Je continue. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi retourner chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, pour lesquelles j'ai travaillé chez toi, et mes enfants, et je m'en irai. Car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit, « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Laban avait une certaine croyance en l'Éternel, mais il consultait aussi les augures par le biais des théraphim, des idoles domestiques ayant la forme de petites statuettes à figure humaine. Cette pratique idolâtre sera strictement interdite sous peine de mort par la loi de Moïse. À l'époque des patriarches, le syncrétisme religieux sévissait partout, non seulement chez les païens ou la famille d'Abraham, mais aussi dans la lignée choisie. Malgré ces pratiques occultes, Laban est béni par l'Éternel, comme quoi il est un Dieu miséricordieux et condescendant.